Hello à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le podcast pour trouver sa voie après une école de commerce. Cette semaine, on vous propose un épisode un peu particulier, puisqu'on n'est pas allé interviewer un invité sur son métier, mais on a reçu Oussama Amar, le cofondateur de The Family, un accélérateur de start-up qui accompagne des entrepreneurs ambitieux dans leur aventure. On a parlé du lien entre études et entrepreneuriat, de la place de l'école dans la formation de futurs entrepreneurs, des qualités pour être un bon entrepreneur, de comment utiliser ses années d'école pour monter sa boîte, des liens entre entrepreneuriat et sport de haut niveau, bref, plein de sujets passionnants. Si tu es étudiant et rêves de monter ta boîte, alors cet épisode est fait pour toi. Bonne écoute!
Salut Oussama, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus que ton nom est pas mal ressorti à chaque fois qu'on demandait qui est-ce que vous voulez qu'on interviewe sur le podcast de Vocation.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais un petit peu commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Oussama Amar, j'ai créé une entreprise qui s'appelle The Family, qui accompagne une centaine d'entrepreneurs tous les ans en Europe, et un peu plus mondialement d'ailleurs maintenant, depuis le Covid, à créer des entreprises très ambitieuses. Moi, pour mon parcours personnel, j'ai toujours été un entrepreneur, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de vivre dans plein de pays. Et The Family, c'est un peu la synthèse de tout ce que j'aurais rêvé avoir comme entrepreneur.
Et justement, c'est quoi cette synthèse? Est-ce que tu as des caractéristiques un peu précises à nous
ouais, donner? Ouais, un endroit sympa où les gens sont pas prises de tête. Un endroit où on arrive à croire en nous et on nous donne de l'ambition. Et un endroit très, très business friendly en France et en Europe en général. C'est pas très très facile quand on a un mindset très business, et être à un endroit où tout le monde est dans ce mindset, ça fait vraiment la différence.
Ouais, totalement. Je sais que juste avant qu'on commence le recording, je t'ai dit qu'on allait parler justement du lien entre école et entrepreneuriat, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur cette question d'ambition qui est très chère à The Family. Vous en parlez beaucoup. C'est quoi pour toi l'ambition en entrepreneuriat, et surtout, est-ce qu'on peut être ambitieux en entrepreneuriat sans créer une boîte tech, scalable, et avoir une envie de conquérir le monde avec son produit?
La réponse est à la fois oui et non. Oui, parce qu'on a tous notre propre définition de l'ambition.
Ouais.
Et c'est important d'être en accord avec soi-même. Faire des boîtes scalables qui vont conquérir le monde, c'est pas pour tout le monde, c'est pas la peine de se raconter des histoires.
Ouais.
Maintenant, c'est comme dans tout, évidemment. Quoi que j'aime The Family, l'impact de The Family sur le monde est beaucoup plus limité que celui de Facebook ou Google. Et je connais ma place dans la hiérarchie, donc il faut pas mal le vivre. La vie est longue, chacun trouve son chemin, chacun trouve son équilibre. Mais c'est pas parce que on n'a pas réussi à être dans le top 0,001% qu'on ne peut pas reconnaître qu'il existe, et qui on est pour dire à quelqu'un qui a envie d'en faire partie qu'il ne devrait pas essayer. À la base, je regardais juste avant notre interview le reportage sur Michael Jordan là, sur Netflix. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont au-dessus. Michael Jordan, il était au-dessus dès le lycée quand il jouait au basket. Il n'y avait pas de doute qu'il allait être légendaire. Bon, c'est comme ça. Ça n'empêche pas des milliers de gens de prendre du plaisir à jouer au basket sans avoir besoin d'être Michael Jordan.
Ouais.
Mais pour devenir Michael Jordan, il faut croire qu'on va devenir Michael Jordan. C'est un peu tout le paradoxe.
Ouais, carrément. C'est drôle que tu prennes cette comparaison, parce que du coup, en même temps, là, je suis en train d'écrire mon mémoire justement pile sur cette question-là de est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre, en gros. J'ai eu Younes, directeur financier de The Family, au téléphone pour qu'il m'explique un peu la vision que vous aviez chez The Family sur ça, et il m'a pris l'exemple de Usain Bolt en me disant tout le monde peut se former à essayer de devenir Usain Bolt, mais pas tout le monde peut l'être concrètement. Tout le monde n'a pas les capacités de l'être, donc assez drôle ces métaphores sportives chez The Family.
C'est parce qu'on n'est pas des grands sportifs nous-mêmes, alors.
Moi non plus.
C'est plus facile de faire des métaphores que d'aller courir, quoi.
Du coup, cette question de l'ambition, vraiment, elle me tient à cœur, parce que je trouve que c'est quelque chose, l'ambition quand on est jeune, c'est pas toujours quelque chose de facile à avoir. C'est quelque chose qu'il faut cultiver et ça vient avec de la confiance en soi qu'on n'a pas forcément quand on a 20 ans. Mmh. Est-ce que tu as déjà vu des entrepreneurs très ambitieux à 20 ans et comment l'être, comment être ambitieux quand on est encore jeune et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience ?
Alors déjà, faut pas essayer d'être ambitieux. L'ambition, okay. L'ambition, ça, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Donc l'ambition, ça vient en faisant. Quand on a 20 ans, il faut se laisser porter, il faut pas stresser avec la vie des autres. Le point commun entre tous les gens qui ont fait des choses très ambitieuses, c'est qu'ils ont jamais été très très intéressés par ce qu'il fallait faire ou ce que faisaient les autres. Parce que le problème du diktat de ce qu'il faut faire ou ce que font les autres, c'est que ça donne un modèle et que tous les gens vraiment ambitieux, ils ont cassé les modèles. Si Mark Zuckerberg avait voulu créer une multinationale, il aurait jamais créé Facebook. Parce qu'il aurait essayé de copier bêtement à quoi ressemblaient les entreprises alors qu'il a créé quelque chose de totalement nouveau. Et donc, en fait, l'hyper-ambition commence par une quête d'humilité. Et l'humilité commence par le fait de savoir qu'il faut passer des étapes et que ces étapes, l'ambition, il s'agit d'être à fond à son échelle. Quand Mark Zuckerberg s'est dit qu'il allait faire le réseau social de Harvard, il s'est dit qu'il allait faire le meilleur réseau social de Harvard. Et puis ensuite, c'est devenu le réseau social des universités, puis des lycées, puis de tout le monde, puis du monde entier, puis de la population entière. Donc, il faut pas... L'ambition, c'est comme le temps. Ça a un effet sur soi. D'ailleurs, quand les gens imaginent ce qu'ils seront dans 10 ans, ils se trompent toujours, parce qu'ils sont incapables de prévoir l'influence du temps sur eux. Et notamment, l'influence du temps fait qu'on change. La raison pour laquelle on a tellement de mal à savoir avec exactitude ce qu'on sera dans 10 ans, c'est parce qu'on sous-estime l'influence du temps sur qui on est. Et le temps change tout. Il change notre palais, il change nos goûts. Moi, il y a des trucs que j'aimais pas il y a 10 ans que maintenant j'aime. Et tout n'est que changement. La vie est longue et pleine de mystères. Donc, quand tu commences à vivre, et bien, il se passe plein de choses sur toi. Et c'est ta capacité à les accepter et à toujours changer et à être dans le flow, quoi, être dans la vague qui fait la différence. Les gens qui sont au bord du sable avec un plan, qui tracent leur route dans le sable, en général, la vague vient, efface tout et ils n'ont plus rien, quoi.
Justement, c'est une question qu'on nous pose beaucoup quand on sort d'école. Où est-ce que tu veux être dans 10 ans? Et beaucoup d'étudiants se projettent justement à 10 ans en se disant, moi, dans 10 ans, j'aimerais avoir monté ma boîte. Par contre, aujourd'hui, je me sens pas d'aller me lancer directement dans l'entrepreneuriat. Je préfère aller bosser un petit peu, acquérir de l'expérience. Est-ce que c'est vraiment, et ça c'est une question tout à fait personnelle, mais est-ce que c'est vraiment judicieux d'aller acquérir de l'expérience dans un groupe quand après on veut monter sa boîte? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se dire je vais aller bosser pour acquérir de l'expérience pour monter ma boîte après, alors qu'en fait tu peux juste essayer de monter ta boîte, te planter, réessayer et au bout d'un moment ça marche, quoi? C'est quoi ton avis là-dessus?
Mon avis, c'est que rien ne prépare à l'entrepreneuriat à part entreprendre. Mmh. Et que donc, si tu te dis mon rêve dans 10 ans, c'est d'être entrepreneur, autant commencer le plus tôt possible.
Ouais.
Maintenant, le vrai sujet, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner à 10 ans et qu'il faut plutôt raisonner à qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et si la question qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, la réponse n'est pas entrepreneur parce que tu as peur ou je ne sais pas quoi, et vaut mieux trouver une meilleure réponse et faire autre chose, et peut-être qu'un jour tu n'auras plus peur et que tu auras envie d'être entrepreneur. Mais il faut vraiment vivre dans le présent pour avoir une chance d'avoir un futur glorieux. Si tu commences à faire des plans sur la comète, je sais pas, moi c'est marrant, moi je fais jamais de plan. La seule fois de ma vie où j'ai fait un plan, c'est cette année en réservant mes vacances un an à l'avance. J'ai tellement adoré mes vacances de l'année dernière que un an avance, et puis il y a le Covid qui est venu et ça m'a fait rire. Et il y a ce proverbe qui me fait beaucoup beaucoup rire, qui dit les dieux se moquent de nous tous, mais surtout de ceux qui ont un plan. On a tendance à exiger des plans de tout le monde parce que les plans donnent le sentiment de réfléchir, donnent le sentiment d'être important, donnent le sentiment d'être en contrôle. Et c'est une illusion. D'abord, réfléchir, c'est n'importe quoi, parce que vu la complexité d'un raisonnement temporel avec tous les facteurs qu'il faut prendre en compte, aucun être humain n'est assez intelligent pour savoir ce qui se passera dans 10 ans. Aucun.
Ouais.
Ça n'existe pas. Ensuite, être en contrôle, bah ça, on en a vite fait le deuil quand on commence à faire des choses. C'est pour ça que les conspirationnistes m'ont toujours fait rire. Parce que d'imaginer qu'un mec peut décider quelque chose et que ça se passe bien, si tu as un jour fait un truc dans ta vie, tu sais que ça ne marche pas comme ça. Quand tu vois que pour amener trois mecs à manger la même pizza, les efforts de management qu'il faut faire, alors un complot, bon courage. Et le dernier élément de l'équation, c'est que le temps est une force, encore une fois, qui te change et la personne que tu es évolue en permanence. Et donc, essayer de prévoir ça, c'est un effort vain plutôt que de se concentrer à être la meilleure version de soi-même au moment où on l'est, quoi. Donc, quand on est jeune, on ferait mieux de se demander qu'est-ce qui, dans un horizon de temps extrêmement restreint, produirait chez moi un plaisir immense, qu'est-ce qui ferait que je serais vraiment très, très heureux de me lever le matin. Et d'ailleurs, un point commun que j'ai vu, moi, chez les grands entrepreneurs, c'est qu'en général, ils ont des jeunesses chaotiques. Par exemple, j'étais avec un milliardaire qui s'appelle Lars, qui est le fondateur de Saxo Bank, qui est un des mecs les plus successful du Danemark. Tu vois, quand il avait 20 ans, il était patron d'un bar à Barcelone. Alors, comment tu passes de patron d'un bar à Barcelone à première fortune du Danemark et sans doute top 20 des fortunes d'Europe? Bah, tout simplement parce qu'en fait, tu t'es pas posé la question comme ça. C'est juste que lui, quand il a eu 20 ans, il a eu envie d'ouvrir un bar à Barcelone. Il s'est pas dit c'est une carrière, c'est un truc. Non, il l'a juste fait, quoi. Et il a dirigé pendant 8 ans ce bar de 20 ans à 28 ans. Et ensuite, il est devenu financier. Et forcément, quand il devient financier, il a une vie, une expérience qu'aucun financier n'a, parce qu'il ne s'est pas posé la question des petites cases.
Oui, totalement. C'est quelque chose qui revient énormément chez les personnes qui ont fait une école de commerce. Justement, rentrer dans les cases comme ça, avoir un parcours. Donc, il y a quelques années, c'était la finance. Maintenant, c'est le conseil. Et bon, c'est de plus en plus l'entrepreneuriat qui est à la côte. Mais moi, je vois même dans ma promo autour de moi, et même moi pendant pas mal de temps avant cette année, j'étais énormément influencée par ce qu'on me disait et par mon entourage qui me disait pourquoi tu postules pas, je sais pas moi, au BCG, pourquoi est-ce que tu postules pas en finance, pourquoi est-ce que tu essaies de monter des projets, où est l'intérêt de faire ça, commence par acquérir un peu d'expérience et ensuite fais ça. Je te rejoins totalement sur le fait que c'est pas en allant faire des slides en conseil, en tout cas, que tu apprendras à devenir un entrepreneur.
D'ailleurs, petit message pour tous les gens qui nous écoutent. La différence, dans les années 80, on était banquier, après consultant, après trader, après je sais pas quoi. La différence qu'il y avait entre toutes ces professions un peu tracées et l'entrepreneuriat, c'est que quand les jeunes devenaient banquiers, consultants, traders et qu'ils faisaient leur crise de la quarantaine, ils faisaient à peu près tous une crise de la quarantaine avec quelques millions d'euros sur un compte.
Ouais.
Alors que l'entrepreneuriat, c'est très vénère quand tu rates. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est un milieu dans lequel il y a des mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont dedans, ils n'ont jamais gagné leur vie, ils n'ont pas un rond, ils ne savent pas quoi faire avec leur... Ils n'ont pas d'argent, quoi, et c'est des clochards, enfin... C'est terrible, c'est un lieu extrêmement dur. Donc quand tous ces gens qui sont devenus entrepreneurs parce que c'était le bon truc à faire, 10 ans plus tard vont se réveiller et que la seule chose qu'ils ont eu comme argent, c'est une subvention de BPI, ils vont un peu, ils vont l'avoir un peu plus vénère que tous les banquiers qui se sont achetés une Porsche et une nouvelle maîtresse, quoi.
Ouais. Donc, est-ce que tu crois que... Pardon, je t'ai coupé, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment possible? Est-ce que tu crois qu'on peut être entrepreneur juste pour faire bien?
Ouais, bien sûr, il y en a plein. Enfin, il n'y a jamais eu autant. Moi, je l'ai vu en 7 ans à The Family. Il y a 7 ans, il n'y en avait pas. Et maintenant, ils passent de plus en plus inaperçus, quoi. En plus, c'est terrible parce qu'ils sont très, très, très durs à détecter. Parce que comme ils parlent bien, ils ont été à l'école, etc., tu crois leurs conneries, quoi. Et c'est toujours dans les moments difficiles que tu... C'est toujours dans les moments difficiles que tu... Que tu te rends compte qu'en fait, ils n'avaient pas ce qu'il fallait.
Et c'est quoi justement ce qu'il faut pour toi ?
Il faut de la résilience, il faut du courage, il faut de la détermination, il faut des qualités humaines très rares. Il faut, ça se rapproche beaucoup du sport de haut niveau, de tout ce qui est intense dans la vie. Ça veut dire que ce qui fait la différence, c'est le mental, quoi.
Ouais. Du coup, là, avec les qualités que tu viens de me citer, ça n'a pas franchement l'air d'être des qualités que tu apprends quand tu es en école de commerce. On y vient. J'aimerais bien avoir ton avis, du coup, sur la place de l'école et la place de la formation pour toi, pour des entrepreneurs en herbe et des personnes qui aspirent à monter leur boîte.
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui prépare à l'entrepreneuriat, donc l'école fait partie du rien. Hein. Il y a inclus là-dedans. Maintenant, moi, je ne suis pas trop dans le discours anti-école. Moi, je pense que c'est important d'aller à l'école. Je pense que c'est même très, très important. Moi, chaque fois que quelqu'un me dit, cherche mon conseil en me demandant s'il faut drop out ou pas, je dis toujours non. Alors après, les gens me disent, mais c'est hypocrite parce que il y a plein de drop out à The Family très successful. Mais je leur réponds toujours la même chose. C'est que ces gens-là m'ont jamais demandé l'autorisation de drop out. Drop out, c'est réservé à une minorité de gens qui n'ont pas leur place à l'école. Mais c'est pas parce qu'une minorité de gens n'ont pas leur place à l'école que l'école ne fonctionne pas pour 80% des gens. L'école fonctionne pas pour le top 10% et pour le bottom 10%. Donc les gens qui ont vraiment du mal intellectuellement, l'école est un endroit horrible, stigmatisant et incroyablement déprimant. Et pour les gens qui ont un cerveau qui fonctionne à toute allure et souvent un peu out of the box, l'école est un endroit horrible. Mais souvent les gens adorent. Ce matin j'avais quelqu'un en entretien qui disait oui, moi je suis très original, je pense en dehors de la boîte. Et ça m'a un peu agacé, je lui dis, mais tu sais que les gens vraiment originaux, ils le disent jamais, en fait. Parce que les gens originaux, ils pensent qu'ils sont normaux. L'une des caractéristiques de la vraie originalité, c'est de ne pas voir en quoi on est original. Dès qu'on a l'impression d'être original, c'est qu'on est juste comme 80% des gens, savoir pas du tout original. Mais c'est pas grave. De toute façon, l'originalité, c'est rare, par définition. Parce que si l'originalité n'était pas rare, ce ne serait plus de l'originalité. Et puis souvent, c'est un curse d'être original, de penser différemment. Ça a un coût que la plupart des gens ne veulent pas payer. Et donc, l'école, c'est quand même une invention formidable qui donne des bonnes bases. Quand on a fait des bonnes études, c'est quand même une sécurité. Et il faut que... Enfin, je pense que la plupart des gens... moi, mes neveux et mes nièces, ils sont tous à l'école. Il n'y en a pas un qui a drop out. Et je suis très heureux de leurs bonnes notes et de leurs diplômes. Enfin, je suis très fier d'eux. Maintenant, si un jour j'avais un enfant ou un petit neveu ou une petite nièce qui ne fitait pas avec le système, bah, à l'inverse, je n'aurais pas peur de le sortir. Je trouve que ce qui est malsain, c'est cette idée que tout le monde doit trouver sa place à l'école. Ce qui rend en fait l'école incroyablement... Mais une pression terrible en fait sur l'école. L'école, c'est pour 80% des gens et c'est déjà incroyable qu'un tel pourcentage des gens puisse y aller.
Oui, totalement. Et du coup, pour ces 80% pour qui l'école, c'est plutôt une bonne chose plus qu'une mauvaise chose, comment tu leur conseilles, je parle vraiment de l'école, enfin les études supérieures, comment tu leur conseilles de rentabiliser leur temps s'ils veulent être entrepreneurs?
De faire un maximum de projets perso et surtout pas de projets... surtout pas de projets liés à l'entrepreneuriat. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de faire des choses sans le stress de devoir gagner de l'argent et simplement pour le plaisir de les faire et d'essayer d'en faire un maximum pour voir les interactions humaines, etc. C'est pour ça que j'ai plein d'entrepreneurs de family, leur première vie, c'était d'être dans les BDE, les trucs comme ça, parce qu'en fait, ça t'apprend à organiser, ça t'apprend à gérer, ça t'apprend à manager, ça t'apprend à gérer un budget. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plein de choses. Et il faut juste être proactif, quoi. Ne pas laisser ces années passer.
C'est un peu le danger quand tu es dans une école et que tu es un peu pris dans justement tout ça. Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux s'investir dans les assos et dans ce qui va te faire vraiment gagner en compétences sans forcément que tu t'en rendes compte, en fait, sur le coup, et que tu ne cherches pas forcément à monter une boîte plutôt que de... ou essayer de monter une boîte et qu'en fait, tu n'es pas du tout les compétences à ce moment-là pour le faire, quoi.
Exactement.
Okay. Justement, y en a quand même qui réussissent pendant l'école. Est-ce que tu as un peu des exemples de success stories de personnes qui ont monté leur boîte pendant l'école et qui maintenant sont chez The Family, par exemple?
Pefit, Side, Comet, il y en a plein. Mais la tous comme caractéristique que quand ça a décollé, ils ont tous arrêté leurs études pour créer leur boîte. C'est pas possible d'être étudiant et entrepreneur en même temps.
Ok. Du coup, on a bien compris que l'école, c'était pas forcément la meilleure façon de se former à l'entrepreneuriat. Mmh. Mais est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend, et donc pas forcément avec l'école, hein, mais avec l'expérience, le fait d'essayer, le fait de se planter, etc. Ou bien il y a quand même une part d'inné. Tu nous disais tout à l'heure que l'entrepreneur, c'était un peu quelque chose de rare. Donc voilà, quelle est la part d'inné et quelle est la part de j'apprends avec l'expérience pour toi chez un entrepreneur?
Comme tout, la part d'inné, c'est les cartes avec lesquelles tu joues. Et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas une seule façon de jouer et il n'y a pas un seul type d'entrepreneur. Donc je pense que tout le monde peut devenir un entrepreneur. C'est pour ça que le slogan de The Family, c'est Anyone. Mais Anyone, ça veut dire qu'il peut venir de n'importe où, mais ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivera. Et après, tout le monde n'a pas envie de payer le prix non plus. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans une quête entrepreneuriale, il y a toujours un moment où tu dois payer le prix du sacrifice et que beaucoup, beaucoup de gens ne veulent pas payer ce prix. Que ce soit en termes de temps, en termes de... Tu vois, pour reprendre le reportage sur Michael Jordan, Michael Jordan rentre à l'université et dit à son coach « Qu'est-ce que je dois faire pour être le meilleur joueur de basket de tous les temps ?» Et c'est une question marrante, tu vois. Et le coach répond « Bah, va falloir t'entraîner beaucoup plus que l'année dernière, mon petit. » Et il répond « Bah, je comprends pas, je me suis entraîné plus que tout le monde. » Et il dit « Mais je comprends pas pourquoi tout le monde, tu veux être le meilleur ou tu veux pas être le meilleur ?» Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tout le monde veut réussir, mais est-ce que les gens veulent vraiment sacrifier leur vie, etc. Et en plus, ce qui est terrible là-dedans, c'est que si tu regardes tous les grands entrepreneurs, ils prennent un plaisir là où beaucoup de gens ne savent pas prendre de plaisir. Et c'est aussi ça l'inégalité entrepreneuriale dont on parle assez peu. Par exemple, pendant le Covid, là, nous, on a restructuré The Family, on a dû transformer plein de choses, etc. Moi, j'y ai pris un plaisir solitaire extraordinaire. La plupart des gens, ce genre de choses, ça les broie. Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Est-ce que c'est à force de le faire? C'est compliqué hein, de dissocier l'inné et l'acquis. De toute façon, c'est un débat stérile. La vraie question, c'est qui es-tu? Quelle carte tu as en main et est-ce que tu es capable de donner la meilleure partie possible avec ces cartes?
Oui, totalement. Il y a une autre question que j'aimerais aborder avec toi et que tu as un petit peu mentionné là juste avant sur justement tout le monde n'a pas envie de supporter le risque de l'entrepreneuriat et on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en nous disant en fait là j'ai envie de monter ma boîte mais en ce moment financièrement c'est pas possible. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur ou en tout cas quelqu'un qui veut monter sa boîte pourrait quand même se plaire en entreprise? Et si oui, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire en attendant de se relancer?
Oui, bien sûr qu'on peut se plaire. Moi, ça m'est arrivé de travailler pour d'autres gens pour me refaire une santé financière. Si t'aimes travailler, il n'y a pas vraiment de différence à travailler pour toi ou travailler pour les autres. D'ailleurs, les gens qui disent « moi, je suis entrepreneur parce que j'aurais pu travailler pour personne », c'est toujours bizarre comme discours parce que pour être un bon leader, il faut savoir suivre. Ouais. Si tu ne sais pas suivre les autres, tu ne peux pas devenir un leader. Donc il faut absolument, savoir jouer sur cette carte-là.
Ouais, totalement. Mais du coup, plutôt aller chercher un job, travailler dans une start-up ou dans quelque chose une structure qui te permettra de monter ta boîte après et d'avoir un peu de nouvelles cartes en main, pardon, pour monter ta boîte ensuite.
Ouais, exactement.
Super. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, qui est encore lié à l'entrepreneuriat et au fait d'entreprendre quand on est jeune. Chez The Family, vous avez quand même une proportion d'entrepreneurs qui ont la vingtaine, trentaine, qui est assez forte, non?
Ouais, c'est la majorité.
Ouais. Quelle différence tu vois entre des personnes entrepreneurs à 20 ans et des personnes entrepreneurs à 40, 45 ans?
Ils sont en moyenne moins talentueux, mais en général plus énervés. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile d'entreprendre à 20 ans qu'à 40 ans. Hein. Moi, je le vois, j'ai 34 ans, je commence à sentir la fatigue, quoi.
Ah ouais, à 34 ans déjà?
Bah ouais. C'est moi, ça fait 20 ans que je vis comme ça.
Oui, toi, ça fait longtemps.
Je sens bien que je sens bien que j'arrive à un stade où j'ai envie d'autre chose, etc. C'est normal, en fait. Maintenant, comment dire, il faut pas. Tu peux pas courir un sprint toute ta vie. Le but du jeu, normalement, c'est de. Le plus beau message d'anniversaire que j'ai reçu cette année, c'est un type qui m'a dit joyeux anniversaire, Oussama. Je te souhaite un peu moins de réunions, un peu moins de travail et beaucoup plus de plaisir. Le but du jeu, normalement, quand tu réussis, c'est d'avoir de plus en plus de liberté. Les gens qui t'expliquent qu'ils vivent comme des chiens toute leur vie, je ne comprends pas trop l'intérêt, en fait. Souvent, je me moque. En France, il y a un peu un discours de l'entrepreneur smicard. L'entrepreneur, c'est ce génie qui vit au SMIC. Ça va, on est dans le business. Si tu n'arrives pas à faire d'argent, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Et si tu ne sais pas ce que tu fais, il vaut mieux arrêter. Maintenant, tu as pu prendre un peu de temps de faire de l'argent. Et quand les choses prennent un peu de temps, c'est normal, quoi. Ça prend du temps, quoi. Maintenant, prendre du temps, ce n'est pas à jamais, quoi.
Ouais. Question un peu personnelle, mais... Tu penses que toi, si tu n'avais pas réussi à monter, avec les différents projets entrepreneuriaux que tu as montés, tu penses que tu aurais tenu combien de temps entrepreneur smicard?
Écoute, moi, le plus long qui me soit arrivé, c'est 3 mois.
Ok.
Et ça a été 3 mois de trop, quoi. et d'ailleurs, okay. Là, je pense que, tu sais, moi, je n'ai jamais touché de chômage, je n'ai jamais eu de salaire, jamais tout ça. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il y a trop de gens en France, tu sais, ils sont salariés, donc ils sont entrepreneurs, ils ont 18 mois. En général, ils mettent 17 mois avant de commencer leur boîte pour de vrai parce qu'ils ont de l'argent devant eux. Et ça, c'est terrible, quoi.
Ouais. Et donc, du coup, ils passent les 17 mois, quand tu dis avant de commencer leur boîte, c'est 17 mois à pas forcément commencer à bien étudier le marché, à se mettre à fond, quoi. C'est juste quand tu commences à être ric-rac financièrement ou à avoir un peu... des obligations que tu t'y mets vraiment.
Exactement. Ouais. Cette énergie, elle est importante, en fait.
Ouais. Ok, super. On en a déjà parlé des traits de qualité que tu trouves chez tous les entrepreneurs. Je voulais juste un petit peu revenir là-dessus parce que du coup, tu nous as beaucoup parlé de soft skills, on va dire, un peu d'un savoir-être et d'une personnalité. Est-ce que pour toi, toute la partie tech, quand on sort... d'école de commerce, donc enfin tech en fait, mais pas forcément, mais plutôt surtout des compétences techniques à avoir, que ce soit au niveau du développement produit ou au niveau du design, ce genre de compétences. Est-ce que tu penses que c'est important qu'une personne qui sort d'école de commerce les ait au moins un petit peu et s'y forme pendant ses études?
Ouais, je pense que c'est plus qu'important. Il faut quand t'es entrepreneur, il faut que tu saches tout faire et que tu aies peur de rien apprendre. Si tu commences à voir ça comme des sujets un peu marabouts qui te font peur, c'est perdu d'avance, quoi.
Ouais. Est-ce qu'une association suffit? Par exemple, est-ce que quand tu vois un CEO, un CTO, avec le CTO qui est super, mais juste le CEO qui ne comprend même pas ce que fait le CTO, est-ce que ça te fait peur, par exemple?
Oui et non. Enfin, le sujet, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a de la communication, est-ce qu'il y a du respect, et est-ce qu'il y a de la compréhension. Un CEO qui comprend rien à ce que son CTO fait et a tendance à le traiter comme un prestataire de service, ça finit jamais bien, quoi.
Ouais, ça arrive de moins en moins, non, vu que c'est devenu une denrée très 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 rare aujourd'hui, les CTO. Tu en vois encore beaucoup?
Il y en a plus et moins à la fois. Plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui savent coder et moins parce que les gens qui savent coder ont de moins en moins tendance à s'associer à des gens et de plus en plus à créer leur propre truc eux-mêmes, quoi.
Ouais, totalement. Justement, du coup, là, on parle de CTO, donc on parle de boîte un peu tech. Si tu sors d'école, que t'as passé tes années, certes, un peu à te former, mais que t'es comme tout étudiant, pas encore hyper bon sur tous les sujets, mais que tu as absolument envie de monter ta boîte, qu'est-ce que tu conseilles en termes de typologie de boîte pour limiter les risques, je veux dire? Est-ce que monter une boîte tech, par exemple, à 25 ans, c'est quand même plus risqué pour toi que monter, je ne sais pas moi, un média ou bien une marque de vêtements?
tout est ouvrir un restaurant, ouvrir une chaîne de restaurants, ouvrir une boîte tech, tout ça, en fait, quand tu commences à raisonner en termes de risque, etc., c'est parce que tu n'arrives pas à prendre tous les facteurs en compte.
Ouais.
Notamment celui de la compétence, de la passion, de l'envie, etc. Donc, évidemment, quand tu te lances, si tu commences à réfléchir comme ça, je pense que tu es perdu d'avance. Parce que ça veut dire que tu pourrais faire n'importe quelle boîte, et si tu peux faire n'importe quelle boîte, c'est que tu peux faire aucune boîte. Quand on cherche une idée, on cherche pas vraiment une idée, on cherche aussi une raison de vivre, et on a besoin d'avoir un lien réel avec cette idée.
Ouais, ok, totalement. Super, j'ai encore du coup quelques questions pour toi qui sont plus des questions tournées vers du coup les ressources que tu conseillerais à des entrepreneurs qui veulent se lancer et qui sortent tout juste de leurs études et qui sont encore jeunes. Déjà, des ressources type livres, podcasts, etc. Déjà, est-ce que tu en as en particulier ?
Je suis mauvais avec ces conseils-là. Je me suis promis, là, avec mon site internet, je suis en train de fabriquer un site internet perso, comme dans les années 90. et je me suis dit que j'allais lister tout ce que j'ai lu, pas tant ce que je recommande, mais ce que j'ai lu. Comme ça, je vais scanner ma bibliothèque, comme ça, les gens pourront regarder et prendre des trucs au hasard devant.
Ok, ça marche. Et une autre question, mais celle-ci, peut-être que t'as plus de ressources dessus, parce que je sais que chez The Family, c'est aussi pas mal comme ça que vous fonctionnez. Des témoignages d'entrepreneurs qui ont... Donc, tu nous as parlé de PayFit tout à l'heure, Side par exemple. Mais pas forcément des entrepreneurs étudiants, mais des témoignages, des histoires d'entrepreneurs à aller un petit peu regarder plus en détail.
C'est pareil. Enfin, il y a une tonne de contenu intéressant. Moi, je suis bon public. Je trouve que Transformers, c'est un bon film. Il suffit de regarder n'importe quel témoignage. Il y a toujours un truc à apprendre quand on écoute quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus écouter trop de gens. Parce que...
Ouais, sinon ça ne s'arrête pas.
Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Mais oui, il y a une tonne de contenu, il y a une tonne de podcasts. Il y a toujours un truc à apprendre de quelqu'un, quoi.
Ça marche. Ok, bah écoute, super Oussama, merci beaucoup pour ton temps et pour du coup toutes ces réponses à tous ces étudiants qui cherchent aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je mettrai tes ressources et le lien vers The Family et les boîtes de The Family dans la description. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Salut, au revoir.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis d'avancer dans votre réflexion pro. Rendez-vous sur Instagram @vocation.co pour suivre nos aventures. Vous êtes aujourd'hui plus de 2000, alors on voulait vous dire un immense merci. On se retrouve aussi mardi pour une newsletter avec plein de ressources pour trouver le métier de ses rêves. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, le lien est dans la description du podcast. Si l'épisode vous a plu, alors laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait vraiment la différence. À la semaine prochaine !